Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec, qui vous rappelle que certaines incapacités donnent droit à des mesures fiscales. Renseignez-vous.
Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Ah, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre belle émission de Mission Vision. Oui. Aujourd'hui, on va avoir un premier segment. Restez là parce que ça va vraiment être intéressant, mais ça peut être un sujet des fois qu'on n'ose pas trop aborder. Et on va parler de sexualité. Oui, de sexualité. Et ça va être vraiment intéressant. Vous allez voir, on va être avec une femme que j'aime vraiment beaucoup, qu'on se connaît depuis quand même quelques temps. Années, je pourrais dire, Isabelle Frégeot, qui a été jadis une collaboratrice dans un autre média. Et on va pouvoir ensuite jaser avec Marilyn Gélina, qui est une maman en situation d'handicap visuel, et elle vient avec son adolescente de 15 ans, et elle n'a pas d'handicap visuel. Donc, on va pouvoir parler aussi à la jeune fille pour voir sa réalité. Ça va être très intéressant. Et là, j'accueille Isabelle, qui est à côté de moi. Bonjour, Isabelle.
Allô, Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, on va parler de sexualité. Mm-hmm. Et moi, ben déjà, la sexualité, c'est un sujet qu'on parlait, comme je disais, là, dans un autre média. On avait cette chronique pour parler de sexualité. Mais là, je trouvais qu'on était vraiment au bon moment. Là, on dirait que j'étais un petit peu Nostradamus, là, tu sais, pour dire « Parlons de sexualité! » Et là, tout d'un coup, j'ai vu la série Touché, en fait. C'est une série qui n'est pas encore sortie, une série documentaire. Sûrement qu'il y en a qui ont entendu parler à Tout le monde en parle, parce que la semaine passée, il y a eu une entrevue avec des protagonistes de la série. Mais comme c'est diffusé à Ami Télé, ben on le sait, moi, je travaille à Ami Télé dans l'équipe de recherche. Donc, j'ai des petits contacts par en arrière là, sur cette série, et j'ai réalisé à quel point parler de sexualité quand on est en situation de handicap, c'est autre chose. T'es déjà parlé de sexualité.
Oui. En hein? soi.
En soi.
Oui.
On le voit même dans les écoles, dans...
C'est un sujet tabou.
Tout le temps un peu tabou, oui. Mais si on ajoute handicap, mm-hmm. au pelail, mm-hmm. c'est autre chose. Parce qu'on a l'impression que les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité, hein? Comme oui. un peu asexuées.
Oui, un gros préjugé.
Énorme préjugé.
Oui, qu'on a à propos des personnes en situation de handicap.
Ouais. Exact. Et c'est pour ça que moi, déjà, quand je t'avais parlé, ben, c'était de dire, mais moi, là, j'ai envie qu'on parle de sexualité, mais différemment. Mm-hmm. Hein, parce que c'est sûr, si on est en situation de handicap, on ne peut pas avoir une sexualité pareille à si on n'a pas d'handicap. Là. Je veux dire, si on a un handicap visuel, automatiquement, les
sens... Il faut redéfinir, exact.
Ben,
faut,
oui.
faut, en fait, il faut redéfinir au complet.
Au complet.
Ce que c'est la sexualité.
Mais c'est ouais. ça. Ouais. Et c'est ça que j'avais envie de faire avec toi, parce que c'est un processus même personnel. Ouais. Au fur et à mesure que ma vue dégénère, ben, je dois, moi aussi, repenser la sexualité à chaque fois.
Oui.
C'est
mon
vraiment
sujet
comme...
préféré.
Ben, oui. Et c'est déjà un sujet que j'aime beaucoup parler. Oui. Mais là, je trouvais ça vraiment intéressant à le faire avec toi. Fait qu'on peut commencer juste par comme une petite présentation hein, de tu es qui, Isabelle Frégeot?
Je suis une femme cis. Oui. Je suis intervenante en santé sexuelle. Mm-hmm. Et je fais parallèlement à ça un certificat en études féministes. Donc, je viens vraiment ici d'une posture queer, d'une posture féministe et intersectionnelle. Donc, c'est vraiment important pour moi de voir justement ces intersections-là qui font de nous des êtres complets en soi.
Oui.
Puis qui font que, on vit avec certains systèmes d'oppression qui viennent justement planter des petites graines un peu des fois qu'on veut pas dans nos jardins. Là,
oui. Ouais. Et on le sait, la sexualité, si on fait juste remonter dans le temps, là, tu sais, puis moi, ça, j'ai tout le temps trouvé ça tellement intéressant. Puis on dirait de plus en plus, même juste au niveau de l'appareil génital en tant que tel, là, comment qu'on voit que c'est des hommes. Hein? La sexualité a été étudiée par des hommes, des médecins. Exact.
Ouais.
Et on se rend compte que même encore, on est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne juste tout ce qui est au niveau de l'appareil génital. De la femme, en particulier.
C'est tout récent, hein, les études.
C'est tout récent.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que moi, c'est un sujet que je trouve tout le temps qui est comme un peu comme un puits sans fond. Parce que, tu sais, même des fois, je vais découvrir des choses. Récemment, là, il y a à peu près là, un mois, deux mois, j'écoutais un podcast. Et même dans le podcast, c'était une médecin, là, une gynécologue, et elle disait ça, elle disait, est-ce que vous savez que les gynécologues, c'est même pas eux qui sont supposés être les spécialistes au niveau hormonal de la femme?
Non, si là, on peut en parler, hein?
Ben non, mais même là, je me disais, pourtant, monsieur, madame, tout le monde, automatiquement, on dit, je vais aller voir un gynécologue. Mais non, un gynécologue, c'est un médecin chirurgien.
Un spécialiste de la chirurgie.
Oui!
Ouais.
Et c'est là qu'on se dit, OK, mais c'est qui d'abord les spécialistes qui peuvent nous expliquer comment
on penserait aux endocrinologues.
Oui!
Qui, eux non plus, ont souvent pas de connaissances en hormones féminines.
Exact!
Puis on pense après ça aux médecins généralistes.
Médecins généralistes.
Qui, eux non plus.
Non plus.
Ont souvent pas ça dans leur cursus ou très peu.
Non! Et ça serait même supposé être des dermatologues.
Ah, OK. Ça, je savais pas.
Parce qu'au niveau de la peau.
Intéressant.
Parce qu'ils sont à l'externe. Donc, eux autres, c'est vraiment... Fait que j'ai dit, quoi? C'est supposé être un dermatologue que tu vas voir si tu as besoin d'avoir un examen plus approfondi, mais au niveau des muqueuses. Donc, c'est pour ça que je disais que moi-même, j'apprends constamment des nouvelles choses. Et quand j'apprends des choses, je le partage à d'autres femmes et les autres femmes me disent, là, j'étais pas au courant.
Oui.
Et là, c'est comme si entre femmes, on se met à faire du bouche à oreille.
Oui, on s'éduque entre nous.
Et c'est comme ça qu'on... Oui, c'est comme ça qu'on s'éduque. Mm-hmm. Et avec toi, je trouve que c'est un peu ça que tu vas amener. T'es comme un peu cette éducation-là parce que tu n'es pas sexologue.
Non,
effectivement. On n'est pas ici là, pour dire si vous avez A, B, C, D, E, voici c'est quoi le bobo pourrait être.
Non, c'est ça, on est dans le ici maintenant.
Exactement.
D'où je pars, où est-ce que j'ai envie d'aller.
C'est ça.
Puis on part comme ça ensemble, on marche ensemble vers quelque chose qui est plaisant, qui est satisfaisant, puis qui va vraiment venir nourrir notre sexualité.
Oui, exactement.
Parce qu'on a tendance à penser qu'il y a une sexualité.
Oui.
Alors que c'est des sexualités qui existent.
Mais ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai, c'est ça qu'on nous a appris, comme s'il y a une sexualité.
Une sexualité normale.
Normale.
Oui.
C'est ça.
C'est la sexualité homme-femme, qui est très missionnaire et centré sur, mettons, la pénétration, les organes génitaux.
Exactement.
Puis après ça, quand on n'est pas dans ce type de sexualité-là, des fois, on fait comme, mais voyons, je suis pas normale.
Oui. Non.
Comment ça? Qu'est-ce qui se passe?
Et c'est quoi, finalement, la sexualité?
C'est ça. C'est quoi, la sexualité?
Parce que c'est ça aussi, c'est ça la question. Oui. On fait un vox pop, là, on se promène dehors, là, et on dit... qu'est-ce que c'est la sexualité?
C'est bien différent pour chaque personne. Hein?
Mais je suis vraiment curieuse. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se diraient, c'est faire l'amour.
Oui, c'est tellement plus que
c'est...
ça.
Hein? Non, mais c'est ça.
C'est ça. C'est ta définition de la sexualité, puis oui. la mienne va vraiment être complètement différente.
Mm-hmm.
Puis avec notre expérience, moi, avec mon passé, mon présent, ma définition de la sexualité a complètement évolué, mm. changé de ce que c'était versus ce que c'est aujourd'hui.
Oui.
Fait qu'il y a, vraiment... Tu sais, on a tendance justement à focusser la sexualité sur deux partenaires,
mm.
Centrés sur la pénétration ou les organes génitaux, alors oui. que la sexualité ou les sexualités passent à travers le corps,
mm.
passent à travers le plaisir. Qu'est-ce que c'est pour toi, le plaisir?
Mm-hmm.
Comment tu réussis à ressentir le plaisir dans ton corps? Est-ce que tu te donnes le droit de ressentir le plaisir?
Ouf.
Comment, tu sais, c'est ça, c'est oui. comment tu, tu sais, physiquement, concrètement, comment tu mm. fais pour ressentir ça, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que, puis tout le monde ressent différemment, hein, on s'entend?
Ben oui.
Fait qu'il y a autant de sexualité qu'il y a de personnes, là, tu sais, c'est...
Mm.
Puis je pense qu'il y a autant de sexualité qu'il y a de combinaisons de personnes.
Mm-hmm.
Tu sais, si moi, je suis avec une partenaire versus une autre,
oui.
c'est sûr que ce ne sera pas la même affaire.
Non.
Tu sais, nos scripts sexuels ne seront pas les mêmes.
Mm.
Il y a une base, là, parce qu'on a appris quelque chose, tu sais. Mais ça va évoluer, puis on va évoluer ensemble dans cette sexualité-là.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a ça aussi qui est beau là-dedans, se permettre d'évoluer, puis de pas... de briser un peu cette prison mentale-là qui nous oui. enferme dans des scripts, puis dans des façons de faire qu'on a appris. J'aime beaucoup l'analogie du jardin. Est-ce que je t'avais déjà parlé
du jardin?
Ouais. On vient au monde avec une parcelle de terre. Chaque
ouais.
être humain vient au monde avec une parcelle de terre. Puis cette parcelle de terre-là, nécessairement, il y a déjà, quand on arrive au monde, des petites graines qui ont été plantées par nos parents,
mm-hmm.
les générations qui nous ont précédés et
oui.
tout, qui viennent avec nous, dans le fond,
oui.
avec cette parcelle de terre-là. Puis comment moi, j'aime voir la sexualité, c'est de prendre cette parcelle de terre-là puis de dire, OK, quelle fleur m'appartiennent,
mm.
puis lesquelles j'ai plus de besoin aujourd'hui.
Oui.
Ou quelles mauvaises herbes j'ai envie de juste enlever de ce jardin-là.
Oui.
Parce que c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, c'est pas quelque chose qui, moi, me rend bien. Je me sens pas complètement satisfaite avec ces types de pratiques-là. Donc, qu'est-ce que je peux enlever de ce jardin-là, puis qu'est-ce que je peux replanter qui va vraiment venir... nourrir mon jardin à moi,
mm.
tu sais, comme avec qui je suis aujourd'hui.
Mm-hmm.
Fait que j'aime beaucoup cette vision-là du jardin qui, je trouve, ça normalise le fait qu'on vit justement dans une société qui nous apprend à aimer, à être en relation, à avoir des relations sexuelles d'une telle manière. Puis, ouais, ça normalise que tout le monde, en fait, a un jardin. Puis, même si on arrive avec toute la même petite parcelle de terre, toutes nos fleurs vont être différentes dedans.
Oh, oui, c'est... oui.
Ouais.
Et ce que je trouve intéressant avec la métaphore du jardin, c'est que désherber, hein, enlever les mauvaises herbes et tout ça, là,
ouais.
c'est un effort. Hein?
Bien, oui.
Parce que, non, mais parce que c'est ça, je voyais.
Ouais.
Tu sais, je te voyais parler
on
du jardin.
On sue, là, en désherbant.
Oui.
Mais oui, ça, 100%.
C'est ça, mais
oui.
on peut aussi dire, j'ai pas l'énergie.
Ben oui. Ben oui.
De faire ce travail-là.
Exact.
Donc, je laisse les mauvaises herbes comme elles étaient et même continuer à prendre encore plus d'ampleur, hein,
mm-hmm.
parce que ça peut être ça aussi, là, les mauvaises herbes, à un moment donné, là, il y en a.
Oui, le chien d'en pousse.
Mais oui, mais c'est ça, mais c'est dire, ça prend un effort.
Oui, absolument.
De dire, j'ai-tu besoin de cette plante-là? Est-ce
ouais.
que j'ai le goût d'avoir... cette plante-là, tu sais, de vraiment se questionner. Puis je
mm-hmm.
pense que des fois, on fait juste comme... C'est comme ça...
Le vivre.
Ouais,
oui,
ouais.
exact.
C'est comme ça que je... C'est comme ça que j'ai pensé que ça marchait.
Ouais.
Parce que, tu sais, quand on part avec notre... Tu sais, avec notre peu d'éducation, on avance...
pas, en hein? fait, pas...
Notre
hein?
peu ouais. d'éducation, mm-hmm. on s'éduque avec ce qu'on entend, les oui-dire, les images qu'on voit. Les...
Mm.
Donc, on part avec ça, puis des fois, on fait juste dire, OK, bon, mais c'est comme ça. Puis si moi, je marche pas dans ce sens-là, oui. Bien, là, on se dit, bien, je suis pas normale. Tu sais, il y a un problème avec moi, là.
Oui.
Et surtout, les femmes, souvent, on va entendre ça. Hein? Nous, les femmes, mon Dieu, c'est pas facile.
C'est pas facile, c'est ça, c'est compliqué. Puis là, finalement, on n'est pas normal.
C'est ça. Puis moi, je trouve que au niveau justement de... en tout cas, moi, personnellement, au niveau de l'handicap visuel, je trouve que là, ce qu'on se trouve, c'est comme une composante encore plus complexe, supplémentaire. Mm-hmm. Puis qui va nous enseigner ça? Mm. On n'a pas... Tu sais, déjà, normalement, on n'a pas vraiment beaucoup d'éducation. Souvent, c'est parce qu'on apprend par nous-mêmes.
Oui.
Là, c'est en plus, on ajoute l'handicap...
Oui.
Qui?
Bien, je pense que ça...
Qui, tu sais?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question.
Mais oui.
Je pense que ça passe aussi beaucoup par le vécu expérientiel, comme on parlait tout à l'heure, avant d'enregistrer. Tu sais, je pense que de voir ce que les autres... De parler, en fait, il faut ouvrir des discussions. Puis ça, c'est pas facile.
Mm-hmm.
C'est pas facile parce qu'on a peu d'espace où on ouvre des discussions.
Oui.
Puis ces sujets-là... C'est l'idée de se trouver anormal, bien, ça génère de la honte, ça génère de la culpabilité.
Mm.
Ça, c'est des sujets qui sont... c'est inconfortable.
Mm.
Fait que les adresser à d'autres personnes, pour juste poser une question, c'est difficile souvent.
Mm-hmm.
C'est de dire comme... Ouais, mais ça, est-ce que ça, c'est normal?
Oui.
Mais la réponse, c'est souvent oui.
Oui.
C'est juste qu'on n'a pas appris à le faire de cette façon-là.
Mm.
Donc, on considère que c'est bizarre ou qu'on n'est pas comme les autres. Quand dans le fond, on le dit au départ, il y a autant de sexualité qu'il y a d'êtres humains. Donc, oui, c'est normal. C'est normal de te sentir bizarre en faisant certaines affaires, puis de te sentir très bien en faisant d'autres choses, puis que ton ami à côté, ce soit tout à fait le contraire.
Oui.
Fait que c'est ça, faut ouvrir ces sujets-là.
Et tu vois, je me rappelle, tu m'avais transmis à un moment donné un petit... c'était-tu dans une formation, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, il y avait comme... Parce que je sais, je l'ai chez nous en papier, là, tu sais, fait que c'est un document, là, c'est quelque chose que tu avais envoyé. Puis c'était par rapport au... Puis à chaque fois, je dis pas la bonne chose, donc tu vas pouvoir me reprendre, mais oui. Par rapport aux différentes sortes de sexualité ou d'attirance ou de... Je pense qu'il y en avait 5. Tu sais, un peu plus...
Ah, c'est les langages.
Les langages?
Oui, en fait, c'est les... Mais... Ouais.
Pas les langages.
Non, c'est pas les langages de l'amour. C'est les scripts sexuels. En fait, c'est les personnalités. Oui, les personnalités sexuelles.
C'est ça. Puis ça, il y en a 5. Donc, justement, il y en a un qui est basé plus sur le génital.
Exact.
Mais... Ouais. Il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres. Il y a celui qui est basé plus sur le génital, justement. Il y a le sensoriel, donc tout ce qui est sensation du corps. Il y a... voyons, mon Dieu, Julie, attends un peu.
Attends, ben moi, je vais t'aider. Là,
oui,
aussi.
Il y a le métamorphe qui est...
Un
mélange des 5.
C'est ça.
Il y a l'énergétique qui est vraiment plus connecté à un peu l'environnement. Puis tout ce qui se passe qui est autour.
Oui. Puis il y a le... Moi, j'appelais ça, c'est le kinky.
Le kinky, voilà.
C'est
ça. On a-tu fait le tour des 5?
Oui. Le kinky, c'est comme kinky. Comment qu'on dirait ça?
C'est celui qui expérimente.
L'expérimenteux.
Oui, l'expérimenteux. C'est celui qui explore, mettons, l'univers BDSM ou la sexualité qu'on va considérer comme étant moins... entre gros guillemets, le moins vanille. Donc, quelque chose qui sort des normes.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, les 50 nuances de gris.
Ouais, on pourrait parler longtemps de ça.
Non, mais tu comprends ça, monsieur, madame, tout le monde.
Exactement.
Il sait c'est quoi, là, tu
quelque
sais?
Chose, oui,
donc,
c'est ça.
Donc, on parle pas de quelque chose de malsain, tu sais. Mais on parle juste que, une petite attirance pour quelque chose d'un peu plus...
Les kinks, oui, quelque chose qui va nous... Tu sais, je pense que c'est ça aussi, c'est, tu sais, par exemple, se faire attacher. Mettons,
oui, mais
menotter les mains.
C'est ça.
Ça fait partie d'un kink, mettons.
Ouais.
Ou d'une sexualité qui est dite moins vanille.
Mais attends, vous définissez vanille, parce que vanille. Là, les gens vont vanille.
C'est une sexualité vanille, c'est une sexualité qui est vraiment plus hétéronormative. Okay. Donc, le missionnaire, tu comprends? Oui. Par contre, tu sais, j'aime bien comme faire une nuance là-dedans, parce que si toute ta vie, t'as fait l'amour d'une façon missionnaire, puis que tout d'un coup, à 50 ans, t'as envie de te faire attacher, ça se peut que ça soit considéré comme vraiment full kinky, ça.
Mm-hmm.
Tu comprends?
Oui.
Fait que il y en a qui vont aller dans des donjons, passer des soirées, puis, tu sais, vraiment expérimenter.
Échangistes.
Oui, des clubs libertins. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire.
Ça, c'est dans le kinky, là.
Oui, c'est une sexualité qui est vraiment moins normative.
C'est ça. Donc, quand tu vas dire vanille...
Vanille, on est plus dans la base. Là. C'est ça. On est vraiment comme une sexualité... Bien, la base. Mais c'est quoi la base?
C'est ça.
C'est une sexualité où c'est plus doux.
Oui.
Mettons, on va le dire comme ça. Je pense que c'est plus beau de cette façon-là.
Que c'est plus doux. Oui, c'est ça.
Une sexualité plus douce, plus normale. En fait, c'est vraiment que c'est normatif. Tu sais, dans l'idée, il y a... Le concept de l'ordre sexuel normatif.
L'ordre sexuel normatif?
Ouais. C'est un concept qui a été élaboré par Gail Rubin, qui, dans le fond, met en parallèle deux cercles. Donc, tu as un premier cercle qui est la sexualité qui est dite normative, donc celle qu'on considère comme étant valide, saine, normale. Ouais. Donc ça, on s'entend que c'est l'héritage...
Celle qu'on apprend. Oui. L'héritage, notre maman, quand elle nous parle, si elle nous parle.
Oui, exactement. Mais c'est aussi l'héritage de tout le patriarcat, de l'Église, tu sais, de tout ce qui vient avec notre société.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est la sphère qui est comme normative.
Ouais.
Okay? Donc, monogame.
Oui.
Vanille, comparativement à, mettons, BDSM.
Oui. Les mélanges, tu sais, ceux maintenant, là, qui est le polyamour.
Polyamour, c'est ça, monogame versus polyamour.
Oui.
Une sexualité en personne versus une sexualité qui va être faite en ligne, mettons.
En ligne, oui.
Gratuite versus payante.
Payante.
On voit le genre. Ouais. Fait qu'il y a vraiment comme deux cercles. Puis c'est ça, en fait.
Donc là, on a un cercle, c'est le normal.
Oui, puis l'autre cercle, c'est un peu la dissidence.
Ça, c'est quoi? Il est-tu comme par-dessus?
Il est par-dessus, oui.
Il est comme autour.
Exactement. Donc, mettons une sexualité qui est hétérosexuelle.
Mm-hmm.
Bien, ça, c'est le normatif.
Oui.
Puis le cercle qui est autour, qui est vraiment... considéré comme étant dissidence.
Exemple, justement, tout d'un coup, tu décides avec ton partenaire, on aimerait ça avoir une troisième personne
qui
rentre.
Voilà.
Bien là,
tu sors
du cercle du centre, là,
exact,
qui est
normal.
Là, tu t'en vas, boum, à l'extérieur.
C'est intéressant.
C'est ça.
Fait que, c'est intéressant de le voir de cette façon-là aussi, tu sais, de penser notre sexualité, je trouve, en voyant comment on nous l'apprend, puis après ça, en se questionnant sur comment on a envie de nous la vivre.
Mm-hmm.
Tu sais, si toi, tu es avec ton partenaire, ta partenaire depuis des années, puis tu as envie de vivre autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre, d'essayer quelque chose en ligne. Tu sais, c'est pas des pratiques qui sont malsaines, on s'entend.
Mais
c'est
non.
Des pratiques tout à fait saines, quand c'est fait dans le consentement, dans des espaces sécuritaires, c'est parfait, tu sais, pourquoi pas?
C'est comme
de
exemple, là, de dire avec ton partenaire que tout d'un coup, ben tu veux essayer d'avoir une sexualité plus connectée au niveau des sens, là, tu sais.
Mm-hmm.
Donc, une glace dans la bouche qui passe sur le corps, là, tu sais.
Yes.
Hein?
Mm-hmm.
Tu sais,
100%.
Ça, à ce moment-là, on sort.
Ouais.
Mais c'est pas beaucoup.
Mais c'est pas
on
beaucoup.
On sort pas beaucoup.
Mais on n'est pas obligé de sortir beaucoup. On n'est pas obligé de sortir pantoute.
Mais
aussi.
Non, c'est ça.
C'est ça.
Mais là, on sort.
Exact. On sort de ce qui est normatif.
C'est ça.
Mettons l'utilisation de jouets.
Oui.
Ben, eh oui, on apprend ça. Que...
C'est pas la sexualité qu'on apprend quand...
Exactement. On apprend que c'est un monsieur, une madame, puis que c'est comme ça. C'est les deux êtres qui font l'amour ensemble.
Oui.
Sans utiliser rien d'autre. Mm-hmm. Ni de glace, ni de jouet. Fait que c'est ça. Puis tu sais, chaque personne a... à sa manière de vivre sa sexualité à la base.
Oui.
Donc, ce que toi, tu vas considérer comme étant vanille va être différent de moi.
Mm-hmm.
Puis l'endroit où tu vas sortir de la zone, mettons, normative, ben va être quand même différente un peu de moi, tu sais, dépendamment de tes pratiques, dépendamment des scripts que tu as appris.
Mm-hmm.
Tu sais, si pour toi, je sais pas, là, ça a toujours été super ouvert dans ta famille, ça se peut que tu sois avec quelqu'un, mettons, qui est plus vieux que toi au départ. Mm-hmm. Puis pour toi, t'es sorti dans le fond de ce qui est normatif au sens de la société. Oui. Mais pour toi, il n'y en a pas de problème avec ça. T'sais, c'est pas quelque chose qui vient comme t'écorcher un peu ou te questionner. Mm-hmm. Tu fais comme, ben oui, moi, c'est comme ça. C'est
oui.
Tout,
ah, mais moi, j'aime beaucoup ça parce que ce côté-là, on va pouvoir l'explorer vraiment, tu sais, dans... En disant qu'ici, il n'y a pas de réponse. Là. On n'est pas en train de dire... Parce qu'un peu comme je disais, c'est pas de la sexologie où est-ce qu'on dit « t'as les symptômes A, B, C, D, E, ça égale ça ». On n'est pas là, on n'est pas dans un cadre médical. Là.
Non.
On est vraiment dans l'exploration.
Oui.
Et moi-même, je m'amuse avec ça. Souvent, des discussions avec des amis, tout ça, même de dire « hey, quand j'avais 20 ans, j'avais pas la même définition de la sexualité, mais j'avais pas non plus le même handicap visuel.
Mm-hmm.
Donc, j'avais pas les mêmes discussions à avoir, à mettre sur la table.
Ouais.
Moi, je rencontre quelqu'un demain, je dois mettre sur la table, j'ai un handicap visuel et comment
ça impacte
et qu'est-ce que j'ai envie de vivre à travers ça.
Mm-hmm.
Et ça se peut que ce que je te dis là, dans un an, ça soit pas la même chose. Donc, c'est pour ça que moi-même, c'est comme je dis, il n'y a pas de réponse parce que j'en ai pas plus. Parce que c'est un processus.
C'est ça qui est beau.
C'est ça qui est beau. Puis c'est comme d'être curieux. Puis moi, j'ai envie qu'on décloisonne, là, tu sais, puis qu'on ouvre un peu plus, puis qu'on soit moins dans le malaise de oh mon Dieu, on va parler de sexualité. Mais et garde, on fait ça très.
C'est le fun, en plus.
Ben,
On est le fun.
Fait que c'est pour ça que tu vas revenir dans mon émission à d'autres moments, hein? Et on va pouvoir continuer de jaser de sexualité. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci à toi, Julie.
Ça a été un grand plaisir. Les gens peuvent te retrouver sur tes réseaux.
Oui, Instagram, isabelle.frigeau.
Exactement.
Facile. Merci.
Bien, merci, Isabelle. Et tout de suite, après la pause, je vais recevoir Marilyn Gélina et sa fille Laetitia. Et on va parler d'une maman qui est en situation de handicap visuel avec sa belle grande adolescente. À tout de suite.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et maintenant, j'accueille Marilyn Gélina avec sa fille Laetitia. Et je suis vraiment contente parce que là, on va parler avec une maman en situation de handicap visuel et sa fille qui n'est pas en situation de handicap visuel. Et des fois, c'est l'inverse qu'on va entendre. Mais là, moi, j'avais envie de donner la parole aussi à... l'adolescente, pour voir qu'est-ce que c'est, finalement, avoir une maman qui a un handicap visuel. Donc, on va pouvoir en apprendre davantage un peu sur votre histoire. Mais Marilyn, toi, tout d'abord, tu as la rétinite pigmentaire, je pense?
Oui, c'est ça. Ça fait 11 ans que j'ai eu mon diagnostic maintenant.
C'est ça. Mais t'es jeune, là, on a la même âge, là. Donc, si t'as eu ça il y a 11 ans, t'avais... Début 30 ans, là?
Oui, j'avais ça, justement, 30 ans.
30?
Oui.
Bon, moi, ça a commencé à 29, ma dégénérescence maculaire.
OK.
Donc, moi aussi, là, je suis une précoce. Donc, mais toi, je pense qu'au niveau de la rétinite, par contre, c'est un peu différent. Parce que, tu sais, il y en a qui peuvent avoir la rétinite tout jeune et il y en a d'autres, ça peut arriver un petit peu plus tard. Donc, toi, tu n'étais comme pas destinée à avoir un problème visuel, là.
Bien, c'est que ça diffère comme symptôme. C'est ça, il y en a qui ça se développe plus tôt. Moi, ça s'est développé plus tard, surtout après ma grossesse, justement.
Mmh.
Donc, c'est là que vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Parce qu'avant ça, tu sais, c'est sûr qu'un coup qu'on le sait, on disait, ah, là, on a commencé à associer des fois certaines choses.
Oui.
Mais tu sais, au départ, c'était pas assez flagrant pour que je puisse faire un lien qu'il y avait vraiment un problème visuel, là.
Ah, bien, ça veut dire que, dans le fond, c'est après ton accouchement de Laetitia?
Oui.
Que ça l'a comme amplifié les symptômes parce que est-ce que ça a un lien? Parce qu'on s'entend qu'un accouchement, c'est quand même intense sur le corps d'une femme, là. Donc, t'es poussée, tout ça, les contractions.
C'est pas nécessairement l'accouchement en tant que tel, mais la fluctuation d'hormones durant la grossesse puis la grosse chute d'hormones par après.
Ah, ouais.
Donc, la fluctuation a pu jouer. C'est pas. Il n'y a pas eu d'études qui dit « Ah oui, c'est sûr que ça a un lien.
Ouais. »
Mais j'ai vu ça chez plusieurs femmes aussi qui ont la rétinite pigmentaire. Donc, plusieurs femmes qui ont vécu la ménopause aussi après.
Oui.
Puis que là, ça a dégradé d'une certaine façon d'une façon plus drastique, disons, que les autres années.
Ouais, ouais.
Donc, je pense quand même que c'est ça peut avoir un lien avec certaines femmes. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, dans mon cas, c'est sûr que la ménopause me fait peur parce que je le vois qu'avec la grossesse, ça a vraiment changé quelque chose.
Mais toi, à ce moment-là, est-ce que c'est génétique? Il y en a dans ta famille?
Oui, en fait, c'est mes deux parents qui sont porteurs du gène. Donc, parce que les deux avaient la même copie sur trois enfants, dans le fond, on est deux à avoir été diagnostiqués.
Oh là là!
Donc, moi, la première, avec les symptômes, et ensuite, ils ont fait les tests génétiques pour les deux autres enfants, donc ma sœur et mon frère. Puis ma sœur n'est pas porteuse, mais mon frère, oui.
Et lui aussi, il a la rétinite pigmentaire.
Oui.
Mais ça veut dire que toi, si c'est tes deux parents qui ont le gène, est-ce que automatiquement, toi, tu donnes le gène à tes enfants?
Non, heureusement, elle n'a pas de chance de l'avoir. Il faudrait que vraiment elle fasse des enfants avec une personne qui aurait
le gène
de la rétinite pigmentaire aussi, c'est ça, pour le donner à ses enfants. Tu sais, les chances sont vraiment pas élevées, puis tant mieux.
Oui, ben oui, c'est ça. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, dans le fond, dans la transmission.
Non, exactement.
C'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, oui, très bonne nouvelle.
Hein? Et toi, vu que c'est arrivé quand même assez jeune, comme tu dis, après ton accouchement, mais t'es infirmière en plus?
Oui, j'étais sur la route. J'étais infirmière auxiliaire à domicile à ce moment-là, dans un CLSC à Montréal. Puis, c'est ça, je faisais ma route habituelle.
En voiture, là. Fait que ça veut dire que tu conduisais.
Oui. Oui, j'ai eu une vie avant et après la rétinite pigmentaire.
Bien, c'est ça. Moi, j'ai jamais eu la vie, permis de conduire et tout ça, là. Donc, j'ai jamais conduit. J'avais déjà une trop forte myopie. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai pas connu cette liberté de la voiture. Mais toi, ça veut dire que tu conduisais, tu te déplaçais dans les foyers, dans le fond.
Exactement.
Et là, on t'a annoncé rétinite pigmentaire. Comment ça s'est passé?
Bien, en fait, tu sais, quand j'ai eu des symptômes, je suis pas allée consulter immédiatement. C'est avec le temps que je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, Laetitia, elle devait avoir à peu près 3 ans. Là, je suis allée voir un optométriste pour faire un examen de la vue. Je me suis dit, bon, peut-être que je vieillis. J'ai 30 ans, j'ai peut-être besoin de lunettes. Fait que elle m'a regardée, puis elle m'a dit, je pourrais pas t'aider, parce qu'elle dit, je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais tu sais, c'est pas de mon ressort, là, tu sais. Elle dit, je vois qu'il y a des taches, mais c'est tout ce que je peux te dire. Fait qu'elle dit, je vais te relayer en ophtalmologie.
Oui, automatique.
Moi, dans ma carrière, dans le fond, au début de ma carrière d'infirmière auxiliaire, j'ai travaillé dans un bloc opératoire à Maisonneuve-Rosemont. Oh. Donc, tu sais, je connaissais déjà...
Connais bien Maisonneuve, moi, j'ai un abonnement. Donc, ça veut dire que tu étais au pavillon Rosemont.
Bien, en fait, je faisais les deux, Rosemont et Maisonneuve.
Pavillon Rosemont, c'est là qu'il y a les opérations.
Bien, Rosemont était opération d'un jour, Maisonneuve étant des opérations plus importantes.
Exact.
Moi, je faisais toutes les spécialités. Donc, je chevauchais, dans le fond, les deux
autant,
pavillons.
Autant au niveau visuel ou c'était vraiment plus spécifique, peut-être en ophtalmologie?
Non, je faisais tout.
OK, OK.
Dans le fond, Maisonneuve a principalement toutes les spécialités, oui, sauf cardiologie.
Oui,
parce
oui,
qu'il y a,
oui,
l'Institut de cardio qui est proche, donc, oui, il les envoie là.
Oui.
Donc, tout ce qui était orthopédie, gynéco, thoracique.
OK, t'étais toute là, là.
Ophtalmo, oui, j'ai fait tout.
OK.
Fait que dans le fond, c'est sûr qu'en ophtalmo, c'est ça, j'avais déjà, ben, je vais dire, des liens avec des chirurgiens.
Ouais.
Donc, je me suis dit, OK, je vais décider avec qui je veux me faire suivre, puis qu'est-ce qui se passe. Puis, donc,
qui t'a choisi? Parce que je les connais.
J'ai choisi Marilyn Belair.
OK.
Parce que je savais que s'il y avait quelque chose, elle n'allait pas me l'annoncer d'une façon
Bing bang.
Trop drastique. Ouais,
oui, ça, comme d'autres.
Exactement.
Qui peuvent des fois manquer un petit peu là, de douceur. Hein? C'est comme, on te dit les vraies affaires, paf, puis là, tu... Hein? Quoi?
C'est ça.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est là qu'elle m'a annoncé que c'était la rétinite pigmentaire.
OK.
Que j'aurais aussi l'opération des cataractes qui devrait suivre, mm-hmm, très prochainement parce que ça venait avec la rétinite.
Oui.
Personnellement, je peux pas dire que je les voyais, les cataractes, à ce moment-là, parce qu'elle m'a dit qu'elles étaient très petites.
OK.
Mais que éventuellement ça gâcherait ma, oui, vision centrale. Donc, elle, oui, m'a dit qu'on serait mieux de les opérer tout de suite.
Déjà.
On serait débarrassé, dans le fond, avant que ça devienne plus présent.
Oui, oui.
Donc, c'est ce qui a suivi par après. Mais je veux dire, au début, quand on m'a dit que c'était la rétinite pigmentaire, on m'a parlé du permis de conduire, mais sur le coup, c'était comme, tu pourras pas conduire longtemps, puis tu sais, mais c'était beaucoup d'informations en même temps.
Fait que, c'est clair.
On dirait que je suis revenue chez nous, puis j'étais comme, OK, bon, j'ai une maladie visuelle dégénérative, ça, je l'avais compris, mais je pensais pas que ma vie allait changer, tu sais.
Aussi vite.
Mais, ouais, puis ouais, aussi vite, exactement.
Ouais.
Puis un mois plus tard, on m'a appelé. Puis là, je revenais justement de ma run d'infirmière sur, ouais, la route parce que je m'en allais écrire mes notes au CLSC. Puis on m'a dit, OK, Mme Gina, ce soir, vous devez stationner votre voiture chez vous puis ne plus jamais la reprendre.
Ben.
On m'a dit, à partir d'aujourd'hui, on va inscrire dans votre dossier que s'il arrive quelque chose, vous êtes criminellement responsable parce que votre maladie est très avancée.
Oh là!
Donc, vous ne pouvez plus conduire à partir d'aujourd'hui.
Ah ouais!
Mais là, elle est à la garderie.
Ben oui!
Moi, il faut que je m'en retourne en sachant ça. Fait que je m'en reviens le soir, je suis tellement stressée que j'ai peur de faire un accident d'auto parce que je me dis, mon Dieu, je suis pas concentrée sur ce que je fais. T'sais.
Mais non.
Je vais la chercher à la garderie, puis c'était ça. Il fallait que j'annonce qu'à partir du lendemain, on allait prendre l'autobus.
Ben ça, c'est assez particulier, là.
Ben, ouais.
Tu sais, la façon que c'est fait, là.
Ouais.
Tu sais, t'as même pas le temps de te virer de bord, aucune adaptation.
Non.
C'est comme, stationne ton char, c'est terminé.
C'est ça.
Sinon, tu peux te ramasser en prison, tu sais.
Ben, c'est un peu ça.
C'est criminellement responsable.
Ouais.
Tu sais, on s'entend, là, c'est comme, c'est assez clair que si tu prends ton char, tu joues avec le feu.
C'est ça.
Mais on...
Tu endosses les conséquences qui vont venir avec.
Oui, mais on ne donne même pas de temps de transition.
Non.
Puis là, ça veut dire que là, comme tu es infirmière à ce moment-là sur la route, là, tu te dis, OK, je peux plus être infirmière sur la route, mais est-ce que je peux être encore infirmière?
Bien, moi, à ce moment-là, la question, je ne me pose même pas. Moi, dans ma tête, c'est sûr que je vais continuer à être infirmière. C'est juste qu'il va falloir adapter peut-être certaines choses.
Oui.
Mais je pense que c'était ça, le doublement, la claque dans le visage, parce que, tu sais, je m'attendais à rester infirmière, puis
oui,
c'était pas ça du tout après, là.
Puis ça, ça a déboulé, c'est quoi?
Ça a
c'est...
tout déboulé dans le premier 4 mois, parce que là, eux, ils m'ont dit, ben non, ben on te fera pas au CLSC. Dans le fond, leur réponse, c'est qu'on te fera pas un poste spécial parce que t'as un handicap, là.
Mmh.
Hein? On va avoir des griefs des plus vieilles infirmières qui vont dire, ben comment ça se passe qu'elle a un poste ici, puis nous autres, faut aller sur la route, puis...
Mmh.
Ça me faisait suer.
Ah ben, je te comprends. Moi, j'ai vécu ça, mais comme éducatrice spécialisée. Donc,
ah ouais.
C'était exactement ça, là. C'était, on peut pas adapter parce que, d'un coup que...
C'est ça.
Comme si, parce que l'on adapte, on te donne un beau gros cadeau.
C'est ça, exact.
Tu iras plus sur la cour d'école. Ah, c'est un cadeau parce que les madames, justement, qui sont prises pour mettre leur manteau quand il fait moins 40, là... Bien là, c'est comme si là, tout d'un coup, bien là, c'est pas juste.
C'est
elle,
ça.
Elle reste en dedans. Oui, mais moi, je reste à la cour d'école. Là. Ça me ferait vraiment plaisir. Tu sais, mais c'est ça, c'est toute la façon qu'ils voient ça. Donc, je comprends. Fait que toi, c'est un peu ça. Tu sais, on va pas la prioriser, finalement.
Non, puis même à ça, je les ai rencontrés souvent avec l'Institut Nazareth et Louis Braille qui sont venus dire, écoutez, Madame Gélinas est capable là, de continuer à faire son travail. C'est juste qu'elle peut plus être sur la route.
Exact.
T'sais. Et ma boss immédiate, qui était aux soins à ce moment-là, elle voulait me garder. Elle m'avait dit, je vais te faire une route à pied, Marie. Mm. Tu vas faire... Elle savait que j'aimais marcher. Oui. Je suis une fille qui s'est toujours entraînée. Fait que, elle m'a dit, je vais te donner les prises de salle, les pansements les plus proches, celles de ça. Tu le feras à pied avec ta petite valise. Puis, moi, je trouvais ça super cool qu'elle veuille m'appuyer comme ça, mais au RH, ça passait pas du tout. Puis eux autres, leur discours, c'était « Ouais, mais s'il arrive un accident avec un patient, on va être responsable. » C'est ça, les « si, si, si. » Malgré que toute ma carrière, j'avais jamais eu d'erreur médicale ou de peu importe. Mon dossier disciplinaire, il est vierge. Fait que j'aurais aimé quand même, tu sais, peut-être au pire qu'on me demande, qu'on m'exige, tu sais, des examens annuellement juste pour dire « Bon, ben OK, t'es encore stable, t'es encore capable de faire tes choses. » Fait que ça, j'aurais compris. Mais ça, c'était comme, ben, tu sais, hier, j'étais une super infirmière, j'étais une conductrice, puis aujourd'hui, je suis plus rien.
Non, c'est ça.
Je chaille plus à rien.
Mais c'est vraiment, c'est vraiment particulier parce qu'on a la même histoire au niveau professionnel. Pareil, là, tu sais. Puis justement, ce côté-là de dire, hey, mon dossier est vierge, là.
Ouais.
J'ai jamais eu d'encoche de rien,
c'est
là. Tu sais, tout le monde le disait. Tu sais, c'est comme si on te le dit d'avance. T'es exceptionnelle comme éducatrice spécialisée, mais.
Ça.
Congédiement administratif, pareil.
Ouais, c'est ça. T'sais?
Donc, tu te retrouves que tu dis, hey, c'est belle fun qu'on me dise que je suis si extraordinaire. Puis moi aussi, Louis Braille est là. Tu sais, on vient comme dire, regardez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Elle peut faire son travail. Ah, vous voulez qu'elle aille voir des médecins pour qu'ils prouvent qu'elle peut continuer de travailler? Bien, on va envoyer des médecins.
Faire,
Là, les médecins sont devant toi puis disent, bien, t'as juste pu aller sur la cour d'école. Tu peux faire de la relation d'aide avec un enfant, face à face. Donc,
ça.
Tu te retrouves que tout le monde dit oui, ça peut se faire, mais en haut, ça dit non.
C'est ça. On s'entend que c'est pas des adaptations énormes, là.
C'est vraiment pas énorme. C'est ce qui arrive, c'est que c'est pas énorme. T'es pas en train de faire une chirurgie, là.
Je suis pas en train de faire une prise de sang dans ton front. Là.
Non,
tu comprends? Je suis pas rendu à un point que je suis pas capable de faire mon travail. Puis que, tu sais, là, j'aurais compris. Puis probablement que j'aurais été la première personne à dire je suis plus capable, c'est ça.
Oui.
Ou pour telle raison, je me sens plus en sécurité.
C'est ça. Ou je peux mettre en danger ceux que je veux aider, tu sais, veux pas. Là.
Exactement.
Oui. Puis là, ça veut dire que là, à ce moment-là, c'est. Tu ne peux plus être infirmière.
Non.
Donc, t'as comme, tu sais, on te dit, là, dans le fond, c'est comme, tu n'as plus le droit de pratique.
Bien, c'est sûr que, tu sais, l'Ordre des infirmières auxiliaires du Québec m'a pas appelé pour dire, hey, t'as plus le droit de pratiquer. Mais, tu sais, quand ton propre employeur te dit, ben, tu te mettras sur la liste de rappel, puis si on a besoin, ils vont t'appeler.
Mm.
Puis on sait que ça donne, personne n'appelle finalement.
C'est ça. Puis finalement, ça fait 11 ans que t'es sur la liste de rappel.
C'est ça. Exactement. Fait que tu dis, est-ce que je vais aller porter un CV ailleurs comme infirmière pour ce qui va me prendre si toi, tu me connais comme employeur puis tu n'es même pas capable de me faire poursuivre mon travail d'une façon sécuritaire pour tout le monde,
c'est ça.
Sans jugement.
Non, puis là, à ce moment-là, ça veut dire que tu dois pas avoir des belles références, tu sais, dans le sens que, tu sais, un peu comme moi, tu sais, moi, je n'ai pas de référence. Moi, j'ai travaillé 15 ans comme éducatrice spécialisée, je n'ai pas de référence. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas personne, tu sais, tu peux pas dire, ah oh, oui, appelez à cette commission scolaire-là, ils vont dire comment je suis extraordinaire.
Ouais,
mais non, c'est le contraire. Ils vont dire, mais là, elle peut pas travailler.
C'est ça, elle peut pas faire ça.
Elle peut pas faire ça. Fait que là, tu dis, mais oh, mes références. qui peut dire que j'étais si bonne que ça, tu sais?
C'est ça.
Donc, ouais, fait que c'est ça, OK. Et là, ça veut dire du jour au lendemain, t'as ta petite poupoune.
Oui.
Tu peux plus aller la porter à la garderie avec ta voiture.
Non,
mais,
c'est ça.
Mais, tu sais, c'est ça, là.
Je peux, mais d'une façon très complexe en autobus, parce que dans... Cette année-là, on reste à Pointe-aux-Trembles, qui n'est pas tellement bien desservie par les autobus, on va être honnête.
Oui.
Et puis, on est vraiment dans l'est là, de Pointe-aux-Trembles. Donc,
donc vraiment sous le bord de presque de l'eau.
Oui, c'est ça, exactement. Puis là, mais ça m'a fait rire quand même parce que, tu sais, la pauvre était jeune. Elle avait fait un lien que tous ceux qui prenaient l'autobus, il y avait tout un problème visuel.
Oh, pour vrai?
Parce que mon explication, c'était, ben là, il va falloir prendre l'autobus parce que maman, ses yeux sont malades puis elle peut plus conduire, tu sais. Fait que là, elle rentrait dans l'autobus, puis elle servirait de bord du siège, puis elle regardait les autres, puis elle disait, toi, c'est quoi ta maladie dans tes yeux?
Ah! Wow! Mais justement, Laetitia, parce que t'es avec nous, donc ben je veux qu'on te donne la parole, mais c'est parce qu'en fait, je trouvais ça, tu sais, vraiment intéressant, parce que là, on a comme une idée un petit peu du début de finalement, là, de la perte de vision du côté de ta mère, mais toi, comme la petite fille, parce que c'est là que c'est complètement différent. Tu sais, toi, tu te rappelles pas, là, probablement, tu sais, avant, parce que c'est arrivé comme là, tu sais, ce qui veut dire que toi, c'est comme si ta maman, là, tout le temps eu un handicap visuel.
Ouais, c'est ça. Les souvenirs de moi plus jeune avec ma mère qui a pas d'handicap,
c'est flou, là.
C'est ça, c'est presque vide, là.
C'est ça. Donc, toi, ça veut dire que tout d'un coup, t'as une maman qui a un handicap visuel. Comment ça se passe pour la petite fille? Moi, je veux savoir, tu sais, est-ce que tu en avais conscience? Est-ce que tu sais, il y avait comme ce côté-là de dire, ah, ma mère est pas normale, elle est pas comme les autres mamans?
Ben moi, dans le fond, j'ai jamais pris ça comme un défaut ou comme une anomalie, là. Moi, je me suis dit, bon, ben ma mère, elle a des yeux malades, mais on va faire avec, là. Je veux dire, tu sais, c'était toujours... J'y vois toujours le côté des choses du côté positif.
Mm-hmm.
Fait que j'avais pas la difficulté à accepter le fait que ma mère elle avait une maladie visuelle. T'sais, je savais pas trop c'était quoi, là. Je savais juste qu'elle avait, comme on dit, une maladie dans les yeux.
Ouais.
Mais t'sais, c'était quoi, je savais pas. Mais t'sais, je me disais, bon, c'est pas grave, on va prendre le bus, puis on va marcher, puis c'est pas grave. T'sais, je veux dire, moi, l'auto, je l'ai pas vécu pendant longtemps.
Non.
Fait que c'était pas un gros stress de plus. Puis t'sais, mettons que j'aurais appris ça aujourd'hui, j'aurais fait « Ah, OK, on a un problème. »
Oui.
Mais là, à 3 ans, on s'en fout, là.
Mais non,
l'auto,
c'est
pas
ça.
D'auto, c'est ça. On s'habitue après, puis ça m'a permis de m'habituer à l'auto puis d'être plus reconnaissante de plein de petites choses dans la vie.
Mm.
Fait que quand je prends l'auto avec mes amis, mais là, je me sens vraiment reconnaissante. Je suis comme « Mon Dieu, merci. » Ils sont comme « Ben là, c'est bien normal. » Mais moi, je suis pas habituée à ça.
Oui, c'est ça, parce que, tu sais, habituellement, on embarque en voiture avec nos parents, puis là, on fait le tour, là, tu sais, autant on va à l'école qu'on va chez de la famille, on fait des comités. Tu sais, moi, le nombre de fois que j'ai dormi dans l'auto quand j'étais petite, là, tu sais, les parents, là, on fait des routes, la route, puis on s'accote un peu les uns ses autres, là, on est trois, là, tu sais, puis on s'accote une tête sur l'autre tête, puis... Non, mais j'ai vraiment ces souvenirs-là, mais toi, t'as pas vécu ça. Fait que toi, c'est comme si c'était normal dans l'autobus,
c'est
finalement.
C'est ça, ben moi, je m'accoute, mais dans l'autobus, là, dans le fond, sur la fenêtre du côté.
Ben oui. Mais tu sais, là, tout le côté, justement, au niveau de l'école, au niveau de... Tu sais, y a-tu des moments où est-ce que là, ça devenait un enjeu que ta maman ait des choses qu'elle voyait pas?
Ben, c'était pas nécessairement un enjeu, mais c'était une plus grosse adaptation. Comme à l'école, j'ai compris... plus tard au primaire que là, il fallait que j'indique ma maman où aller. Puis là, c'était plus compliqué parce que là, il y avait des amis à côté, mais là, ils savaient pas qu'elle avait une maladie visuelle parce que ça paraît pas qu'on la regarde.
Non.
Puis des fois, elle avait pas sa cape. Des fois, oui, c'est comme « Ah, c'est quoi ça? » Fait que là, à la place de se tasser, ben il était comme « C'est quoi ça? » Fait que là, on perdait du temps puis tout ça. Puis tu sais, les déplacements en foule, faut que je m'habitue à ça.
Mm-hmm.
Mais maintenant, je suis rendue habituée. Mais plus jeune, tu sais, j'ai pris comme la responsabilité de prendre soin d'elle parce que c'est venu naturellement, parce qu'elle fait la même chose pour moi. Fait que là, je me... C'était comme un devoir naturel de lui rendre l'appareil. Puis c'est quelque chose de naturel maintenant, je veux dire. Mais dans l'autobus, tout ça.
Mais moi, je trouve ça beau quand tu dis c'est comme un peu naturel, tu sais, de prendre soin de ta mère. Mais c'est parce que souvent, c'est l'inverse. T'sais, souvent, on va avoir notre parent. Tu sais, nos parents sont plus vieux, nos parents prennent soin de nous.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est un peu ça. Puis souvent, c'est quand on vieillit que là, tout d'un coup, ben là, on... Oh, faut faire... Tu sais, c'est l'inverse parce que là, nos parents... qui sont rendus vraiment, tu sais, des personnes âgées, tout ça, là, il y a quelque chose qui s'inverse. Mais toi, c'est comme si depuis le début de ta vie, t'as comme cette sensibilité-là.
Oui, c'est ça. J'ai appris vraiment jeune que, tu sais, j'ai appris que ma mère, elle avait beaucoup de difficultés. Tu sais, il faut qu'elle me gère moi, il faut qu'elle gère la maison, le travail, tout ça, avec la maladie. Fait que je me suis dit, ben, c'est pas une grosse tâche, je vais lui redonner un petit peu puis de l'aider quand elle en a besoin. Fait que...
Mais tu sais, des choses que tu fais de plus, je vais donner, tu sais, exemple, tu l'aides quand elle fait à manger, tout ça, parce que, tu sais, toi, c'est plus facile visuellement. Y a-tu des choses comme ça que tu fais parce que toi, visuellement, c'est plus facile?
On peut pas être deux dans la cuisine en même temps.
C'est ça. Non, c'est ça.
Non?
Non, c'est ça. Dans
non,
le fond,
ça, c'est ton royaume?
Non, c'est pas ça, c'est que c'est dangereux. Fait que ce soit elle qui cuisine, ce soit moi.
C'est dangereux, tu veux dire, parce que là, oui, tu pourrais te tourner vite avec un couteau, puis tu sais pas qu'elle est là.
C'est ça. Parce donc, dans comme ton averti, champ visuel. Que oui. Si je travaille dans la cuisine, je vais pas. Mais ben, elle peut ben, pas venir, c'est ça.
C'est ça.
Puis si c'est elle, je la laisse faire aussi pour pas l'accrocher sans faire exprès.
Ben oui, c'est ça, c'est ça.
C'est vraiment le comment gérer le fonctionnement de l'environnement, c'est ça que j'ai appris le plus à faire. Parce que vu que là, il y a des endroits qu'elle voit pas, tout ça, j'ai dû m'adapter et tout. Puis quand j'étais le plus jeune, j'étais plus petite qu'elle. Fait que là, elle me voyait pas en dessous. Là, des fois, je passais par ma crochette, elle était comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, moi, j'avais oublié qu'elle me voyait pas en bas.
Oh.
Fait que là, j'ai appris à gérer mon espace. Fait que oui. Là, quand elle est de dos, je vais sur le côté pour qu'elle me voit. Tu sais, je vais du côté où elle va plus, du côté droit. Quand on marche dans la rue, je me mets du côté gauche pour qu'elle sente plus protégée puis qu'elle sache que moi, je suis de ce côté-là. Fait que là, elle voit moins.
Mm-hmm.
Mais il y a moi à côté, fait que c'est pas grave.
Mm.
Dans l'autobus, quand il y a une place, je demande à la personne de se tasser pour lui laisser la place. C'est comme des petites affaires vraiment, tu sais, comme au quotidien, dans le noir aussi. Quand il y a des bas, je l'avertis.
Ouais.
Mais en l'hiver, il y a toujours des boules de neige ou de la glace. Que, okay, dans ce moment, il y a ça ici,
wow.
À gauche, en bas. Des fois, je dis juste, il y a ça là, mais là, c'est
là.
Pas...
Ça veut rien dire.
C'est ça. Là. Même moi, quelqu'un me dit là, je suis comme, OK, où ça? Fait que je suis comme, OK, à gauche, en diagonale, en bas. OK, parfait. C'est ça. Fait que là, ça prend adaptation, mais après 11 ans, on est capable. On est rendu bonne.
Ben moi, je juste à vous voir tantôt, tu sais, on a comme un petit step là, pour rentrer. Là.
Oui.
En fait, c'est à peine là, un pouce, là, je pense, le petit step. Mm-hmm. Puis t'as dit, il y a une côte.
Oui, c'est ça.
T'as dit, attention, maman, il y a une côte. Puis tu t'es tout de suite placée pour qu'elle te tienne derrière. Donc, tu sais, tu rentres et on voit là, que naturellement, t'es un peu ses yeux.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça me fait plaisir d'aider parce que je sais qu'à la fin de la journée, ça va l'aider.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, ça me... C'est pas une charge de prendre 3 secondes
ouais.
Pour lui avertir qu'il y a une coupe. Tu sais, on exagère toujours les affaires pour qu'après ça...
Il y a de l'humour
c'est
aussi.
Ça, c'est ça. Parce que tu sais, si je lui dis, OK, il y a une petite bosse, elle va penser qu'elle est vraiment petite. Puis là, ça se peut que le step est le plus gros. Fait que tu sais,
ouais.
Je dis, oh mon Dieu, il y a une côte. Mais tu sais, c'est ça.
Ouais,
c'est
ouais.
Un pouce. Il y a absolument rien là, mais pour qu'elle puisse être préparée.
Mm-hmm. Justement. Puis tu sais, justement, là, t'as 15.
Oui, c'est ça.
T'es en secondaire. 3.
Oui, 3.
OK. Tu sais-tu un petit peu qu'est-ce que tu veux faire plus tard? T'as-tu une petite idée?
Plus tard, j'aimerais vraiment ça être actrice. Ça serait vraiment un de mes grands rêves. C'est un gros rêve, mais on travaille fort pour. Donc, c'est ça.
Comment est-ce qu'on travaille fort pour? T'as dit on comme dans...
Mais on comme ma mère, elle m'aide beaucoup avec le cheminement pour me rendre à commencer à faire les auditions, tout ça,
ouais.
Tout ça. Je fais du théâtre à l'école et tout ça.
C'est ça, OK. Donc
oui.
C'était ma première question. Tu fais du théâtre?
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que tu es dans une agence?
Non, pas encore, mais dans le fond, cette année, c'est mon but de me rendre là.
OK, t'aimerais
oui,
être dans une agence pour après ça être, tu sais, comme plus...
C'est ça, commencer à faire des auditions pour des
ça.
Écoles de théâtre
être
et tout ça.
Être au courant de
oui,
ce qui se passe. Puis, OK,
oui.
Donc t'aimerais ça
ouais.
Faire de la télé.
Ouais, j'aimerais ça. Dans le fond, c'est juste, dans le fond, mon rêve, c'est vraiment que le plus de personnes voient mon histoire puis voient celle de ma mère parce que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée.
Mmh.
Ça m'a permis de grandir d'une façon différente que les autres.
Oui.
Puis je vois toutes les personnes qui rendent l'appareil à leurs parents puis sont comme « Merci, maman, pour ça. Merci, papa, pour ça. » Puis j'ai besoin que le monde sache que c'est grâce à ma mère, surtout que je suis comme ça aujourd'hui, puis je continue à développer.
Mmh.
Donc,
ouais. Mais je trouve ça beau parce que t'as 15 ans, mais on voit vraiment que t'as une grande maturité.
Ouais.
Vraiment.
Elle a une grande intelligence émotionnelle.
Bien, c'est ça, j'allais dire.
Toujours été comme ça.
Vraiment, ouais. Au niveau d'une maturité affective, là, tu sais, on le voit, là, que c'est... Tu sais, tu me dis t'as 15, je t'entends que t'as 15. Tu sais, je vais pas m'obstiner en disant non, t'as pas 15, toi, là. Mais, tu sais, si on me dit pas t'as quel âge, puis c'est pas par rapport à ta grandeur, là, c'est vraiment par rapport à ce que tu dégages,
oui.
Puis comment tu parles. Mais si on m'avait dit que t'avais 18, tu sais, justement, 17, sur le bord de 18, là, tu sais, comme tu t'en vas au cégep,
mm-hmm.
Tu sais, je serais pas étonnée, là, tu sais, par rapport à la maturité. Fait que je trouve ça vraiment beau de voir ça. Et Et ce que je trouve plate dans cette émission, c'est que ça dure tout le temps pas assez longtemps.
Ouais, c'est ça.
C'est, moi, c'est ça ma détresse en ce moment. Parce que, Laetitia, je suis fascinée par l'adolescente que j'ai devant moi. Je trouve ça beau, je trouve ça touchant. Puis Marilyn, ben là, c'est sûr que tu sais, c'est vraiment votre dynamique ensemble que vous avez créée. Mais on dirait que moi, tu sais, on a la même âge, là, comme pratiquement, là, tu sais, dans le sens qu'on a peut-être quelques mois de différence, là. Donc, on est vraiment dans la même tranche d'âge et tout ça. Donc, tu sais, je me reconnais en toi et je pourrais avoir une fille de l'âge de la tienne, là, tu sais, de par rapport au fait que même si les gens pensent pas que j'ai cet âge-là, là, les gens pensent souvent que j'ai encore 25 ans.
Mais c'est vrai que t'as une petite baby face.
Oui, j'ai une baby face, mais effectivement. Mais ça me fait bien rire quand je suis, exemple, je m'en vais acheter quelque chose qui demande un 18 ans et plus, là. Donc, j'arrive devant le comptoir et qu'on me dit « Montre-moi tes cartes ». Et là, je pars à rire, puis je dis, tu sais que je pourrais être ta mère. Et ça, là, les gens, ça les déstabilise. Ben, puis devant, quand il regarde ma carte, il fait, ah, ben oui, vous pourriez être ma mère. Tu sais, vous vois, là, rendu là. Donc, c'est pour ça, fait que je me reconnais vraiment beaucoup. Puis je trouvais ça beau, tu sais, de vous donner la parole. Mais là, en plus, en sachant que tu veux être comédienne, ben là, je me dis, oh mon Dieu, ben là, elle, on n'a pas fini de la voir.
Je pense pas, non.
Non.
Tous ces profs, ils disent, je pense que c'est un talent naturel qu'elle a aussi.
Oui, vraiment. Puis elle a une façon, là, tu sais, quand on rentre en contact avec elle, d'interagir et tout ça, là. Donc, Laetitia, moi, je te le dis, on va se revoir.
Ben oui, on espère.
On va se revoir, moi, je te le garantis. Marilyn, merci infiniment.
Ben, merci à toi pour l'invitation.
Ça a été vraiment un grand plaisir. Je sais que tu as fait Viens souper et adapter à une télé, donc les gens peuvent aller voir ça aussi s'ils veulent en apprendre davantage. Oui. Et moi, ben, je remercie mes invités, donc je vous remercie. Je remercie Isabelle Frégeot qui était là juste avant et Mathieu à la mise en onde. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!